Mesdames et messieurs, bonsoir. Je pars avec un handicap parce que je vais avoir du mal à tenir mon micro jusqu'à la fin, mais je vais essayer quand même. Alors, si certains parmi vous s'attendaient à voir à ma place Claude Viviani, ils constatent que je ne combats pas dans la même catégorie. Alors, désolé pour eux, mais je vais essayer d'être à la hauteur quand même. Alors, je ne sais trop comment commencer mon propos de ce soir. Peut-être pourrais-je vous le faire à la manière de Fabrice Luchini. Je ne sais pas. Oh, l'imitation va être très mauvaise. Hein. Stendhal disait, quand j'écris, je ne peux donner la vérité des faits. Je ne puis en montrer que l'apparence, que l'ombre. Puisse cette ombre aller s'estompant et la lumière unique de Venise nous illuminer. Il y a 2 mois exactement, le 1er octobre, j'étais à Nohant. Tout le monde connaît Nohant, presque, je suppose. Et là-bas, une guide excellente, au demeurant, a à notre groupe et à moi-même fait tout pour nous dire de quelle façon la dame qui occupait les lieux pouvait justement avoir ce surnom de bonne dame de Nohant. Mais point de petites choses parallèles un peu croustillantes, de faits un peu moins sages. Je vais essayer, moi, de un peu dévier de cette route, un peu trop sage à mon gré, et vous narrer quelques semaines, quelques mois seulement, de la vie de George Sand. Alors pourquoi le roman de Venise? J'aurais pu tout aussi bien appeler mon propos de ce soir « Les enfants du siècle ». Les cinéphiles auront reconnu là le titre d'un film de 1999 de Diane Curis avec Benoît Magimel dans le rôle de Musset et Juliette Binoche dans le rôle de George Sand. Et une pléthore de grands artistes, une distribution extraordinaire. Alors voici, outre l'image que vous avez à l'écran, le Danieli. Si vous avez quelque argent et que vous voulez vous réserver la suite la plus belle et la plus grande du lieu, il vous en coûtera 12 000 euros la nuit. Et dans le petit coin à droite, eh bien, vous avez, sous la plume de Musset lui-même, les deux protagonistes de notre histoire de ce soir, George Sand à droite et Musset à gauche. Ils sont tout jeunes. Tout jeunes. Alors pourquoi Sand, pourquoi Musset? Sand est femme et s'habillera en homme par économie, dira-t-elle, et non pas pour ni par coquetterie ni pour imiter les hommes qu'elle pouvait rencontrer. Elle est femme en ce siècle où il n'est de place que pour l'homme. Pourtant elle inspire Chopin et Musset. Un temps, Delacroix aura un atelier chez elle et la peindra. Balzac la nomme camarade George Sand. Flaubert lui donne du « ma chère maître ». Dostoïevski voyait en elle un écrivain presque unique par la vigueur de son esprit et de son talent. Alain dira d'elle plus tard « cette grande femme ». En pensant peut-être quel grand homme. Proust, par l'intermédiaire de sa mère, fit de ses romans ses premières lectures. Quant à Musset, il ne pouvait vivre ni écrire sans être amoureux. Aussi croise-t-on dans l'histoire de sa vie plus de femmes que de villes. Venise, cependant, lui inspira une de ses plus charmantes nouvelles, Le fils du Titien, dont je vous dirai 2 mots tout à l'heure. Barbet d'Aurevilly dit de lui, je vais vous montrer ce Barbet d'Aurevilly, d'abord Nohant, ceux qui connaissent les lieux le reconnaissent évidemment, l'affiche des enfants du siècle, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et voilà, Jules Barbet d'Aurevilly. Donc Barbet d'Aurevilly dit de lui, né dans les premières années du siècle, quand le canon de Wagram fêtait le baptême de ceux-là qui pouvaient avoir l'espérance de mourir en héros, et qui, l'Empire tombé, ne surent que faire de la vie, Alfred de Musset se jeta aux coupes et aux femmes de l'orgie, comme il se serait jeté sur une épée si on lui en eût offert une. Comme les élégants d'alors, il s'allie beaucoup de gants, blancs et jaunes, mais, moins superficiel que les autres, il livra le meilleur de sa jeunesse en proie aux plaisirs enivrants et aux cruautés de l'amour. Sand sut lui faire découvrir ses dernières à Venise, là où, après le repas, il montait en gondole et s'en allait voguer autour de l'île des Arméniens. C'est là, entre la ville et le Lido, entre le ciel et la mer, que je conseille au lecteur d'aller, par un beau clair de lune, faire l'amour à la Vénitienne. Et peut-être, finalement, ne le fit-il pas. Elle a 29 ans, lui 23, lorsqu'ils se rencontrent. Et pourtant, n'avait-elle pas écrit, dans un billet envoyé à Sainte-Beuve, voici Sainte-Beuve, à propos, ne m'amenez pas Musset, il est trop dandy. Elle sort d'une relation tant d'écriture qu'amoureuse avec Jules Sandeau, le voici, et a eu déjà une vie on ne peut plus agiter. De son mari, Casimir Dudevant, à peu près de 10 ans son aîné, elle a eu un fils, Maurice, mais sa fille, Solange, pourrait bien être le fruit d'une liaison avec un certain Stéphane Ajasson de Grandsagne de la Châtre, tout à côté de Nord. Elle est, elle, la Madame Arthur de la chanson qui est une foule d'amants. Elle est sa Lélia qui va d'homme en homme parce qu'aucun ne lui a donné le plaisir au prix des pires déconvenus. De sa nuit avec Mérimée, voilà le beau Prosper, qu'elle raconte imprudemment à Marie d'Orval. Ne dit-elle pas « J'ai eu Mérimée hier soir. » Ce n'est pas grand-chose. D'Orval informe Dumas, très sympathique, et le récit de l'aventure est bientôt connu du tout Paris. Les protagonistes n'en sont pas honorés. Et elle eut bien aussi accroché à son tableau de Chassin de Beuve, ce chérubin devenu prématurément chanoine. Il sut demeurer son ami et conseiller, chaste et pur, tout comme Gustave Planche. Voici une caricature de Benjamin. Gustave Planche, son autre critique ordinaire, plus factotum qu'amant, qu'enveloppait toujours une odeur de crocheteur échauffé, ainsi que le dit André Mauroy. Marie d'Orval restait l'amie la plus chère aux grandes dames de Vigny, l'amant en titre. Je crois que c'est une œuvre d'un certain Quinson ou Kinson, mais là, mes connaissances sont assez limitées. Sand lui écrit à Marie d'Orval, « Où es-tu ? Que deviens-tu ? Pourquoi es-tu partie, méchante, sans me dire adieu ? Sans me donner un itinéraire de tes courses, afin que je puisse pouvoir courir après toi. Ton départ, sans adieu, m'a fait de la peine. » Mais Vigny veille au grain et écrit en marge de la lettre de Sand que Marie lui a montrée. J'ai défendu à Marie de répondre à cette Sappho qui l'ennuie. Cela veut tout dire. Or, à la fin du printemps 1833, Sand et Musset vont se rencontrer. On ne sait exactement où. Peut-être chez François Bulose. Voici une médaille, le représentant. François Bulloz est le rédacteur en chef de la Revue des Deux Mondes. Et il va, à cette occasion, réunir ses plus proches collaborateurs. Alors, la Revue des Deux Mondes va éditer, à cette époque, tous les grands du 19e, de Victor Hugo à Flaubert, en passant par Stendhal, Dumas, Vigny, Musset et Sand, évidemment. Et j'en oublie. Gustave Planche, que l'on a vu tout à l'heure, y aurait conduit George Sand, et le hasard, ou peut-être un Bulloz malicieux, fidèle la voisine de Musset. Elle eut la surprise de trouver le dandy bon enfant. Il n'était ni roué, ni fat, bien qu'il méditât d'être l'un et l'autre. Le voici jeune. Il brilla, sentit qu'il plaisait, et fut fasciné par les grands yeux noirs et lourds, brillants et doux de sa voisine, des yeux énormes, comme une indienne, un teint olivâtre aux reflets de bronze. La voici, la voilà. D'autres portraits sont pourtant moins élogieux. Par exemple, celui de Vigny, il a quelques partis pris, qui évoque sa figure sévère et immobile, le bas du visage peu agréable, la bouche mal faite, sans grâce dans le maintien, rude dans le parler, homme dans la tournure, le langage, le son de sa voix et la hardiesse des expressions. Ou encore, celui du poète Auguste Barbier, une petite femme brune de peau et de cheveux, assez maigre et fluette de forme, sans appendice charnu, ni devant, ni derrière. Bref, une apparence de jeune garçon habillé en femme, un être plutôt étrange que beau et agréable. Et pourtant, les rencontres vont se succéder, même quai Malaquais dans l'appartement de Sand. Le 25 juillet, c'est la déclaration officielle. « Mon cher Georges, notez le curieux masculin, j'ai quelque chose de bête et de ridicule à vous dire. Vous allez me rire au nez, me prendre pour un faiseur de phrases dans tous mes rapports avec vous jusqu'ici. Vous mettrez à la porte et vous croirez que je mens. Je suis amoureux de vous. Je le suis depuis le premier jour. » S'en suivront des échanges extraordinaires qui donneront lieu même à des canulars. On attribuera, et à Sand et à Musset, des vers des plus choquants pour les chastes oreilles. Si vous en êtes curieux, vous pouvez taper le roman de Venise sur votre ordinateur et vous pourrez juger des soi-disant propos tenus par les deux interlocuteurs. Et l'heureuse conclusion d'éclater au grand jour dans ces quelques vers de Musset datés du 2 août. Eh bien, deux mots de toi m'ont fait le roi du monde. Mets ta main sur mon cœur. Sa blessure est profonde. Élargis-la, bel ange, et qu'il en soit brisé. Jamais amant aimé, mourant sur sa maîtresse, n'a dans deux yeux plus noirs bu ta céleste ivresse. Nul sur un plus beau front ne t'a jamais baisé. L'installation de Musset, quai Malaquais, voici ce lieu, c'est tout en haut, dans la mansarde bleue, ainsi qu'elle était appelée. L'installation de Musset, quai Malaquais, n'alla pas sans drame d'amitié, sans insultes échangées. Il y eut même projet de duel entre un journaliste, capot de feuillide, et le bon Gustave Planche, bon à tout. Il n'en fut rien, heureusement. Mais la détermination de Sand est totale. Le 25 août, elle écrit à Sainte-Beuve. « Je me suis enamouré, et cette fois très sérieusement, d'Alfred de Musset. Ceci n'est plus un caprice. C'est un attachement senti. C'est un amour de jeune homme et une amitié de camarade. C'est quelque chose dont je n'avais pas l'idée, que je ne croyais rencontrer nulle part, et surtout là. » On rit, on chante, tout va pour le mieux. En septembre, Musset emmène son Georges à Fontainebleau, passer quelques jours dans la forêt et les gorges de Franchard. Heureux séjour qu'une scène nocturne vient gâter. Alfred a brutalement une crise d'hallucination qui le laisse pantelant, passe contre terre. « Mon pauvre enfant, dit-elle, mon grand Georges, mon Georgeau, est bien l'homme du couple. » Tous deux, cependant, ont soif d'Italie. Casimir, le toujours mari, veut-il éloigner son épouse, engage sa femme à voyager. La très sévère Madame Musset, mère, consent à ce départ. Ils partent donc en décembre 1833, vers Lyon par la route d'abord, puis vers Marseille en bateau sur le Rhône. Stendhal est du voyage. Voici le célèbre portrait de Stendhal en consul, en costume de consul. Stendhal est du voyage. Monsieur le consul à Civita Vecchia va bientôt les quitter pour regagner son poste par voie de terre. Mais durant le voyage, il y a eu quelques animations, parfois des moments d'ivresse, et Musset a traduit cela dans ce dessin, représentant justement monsieur le consul Stendhal en train un peu ivre d'esquisser quelques pas de danse. Les deux amants, Musset et Sand, vont prendre le bateau, le Sully, et commencent une traversée qui ne sera pas de tout repos. Il a le mal de mer, elle, imperturbable, fume la cigarette sur le pont. Là encore, un dessin de Musset nous le montre. Musset à droite, en train de vomir, enfin je laisse le soin de regarder. Et elle fume tranquillement. Il se plaint de sa froideur, de sa réserve, à terre, à Gênes d'abord, puis à Florence ensuite. Elle exige de pouvoir travailler 8 heures par nuit. C'est un peu beaucoup. Rien de surprenant alors à ce qu'il appelle l'ennui personnifié. La rêveuse, la bête, la religieuse, et lui reproche de n'avoir jamais su lui donner les plaisirs de l'amour. À Gênes déjà, elle avait été atteinte par les fièvres. Désir et maladie font mauvais ménage. Musset boit et ne se prive pas de courir les filles. En janvier 1834, l'arrivée de nuit à Venise est lugubre. Mauroy rapporte même, dans l'Elia ou la vie de Georges Sand, des propos quasi définitifs que Musset aurait tenus. Mais rien ne les corrobore dans l'abondante correspondance des deux intéressés. « Georges, dit-il, je m'étais trompé. Je te demande pardon, mais je ne t'aime pas. » Quoi qu'il en soit, l'installation au Danieli semble avoir été ratée. Nous avons vu Danieli tout à l'heure. Pourtant, Paul de Musset, dans la biographie qu'il fit de son frère, Paul de Musset est le frère aîné, le voici et le voilà, écrit qu'il fut pris d'une joie d'enfant à son arrivée. La chambre qu'il occupait à l'hôtel Danieli, sur le quai des Esclavons, lui parut mériter l'honneur d'être décrite. Il ne se lassait pas, disait-il, de contempler ces lambris sous lesquels s'était promené jadis le chef de quelle grande famille vénitienne, et de regarder par la fenêtre l'entrée du grand canal, le dôme de la Salute. La chambre, c'est la chambre 13 du prestigieux hôtel. Alors, voici une chambre qui n'est pas forcément la numéro 13, mais dont la vue est certainement identique à celle que pouvaient avoir Musset et Sand dans celle qu'ils occupaient à cette époque. L'hôtel Danieli, c'est le palais d'Andolo du XVe siècle, acheté successivement par les Mocenigo les Bernardo, puis les Nanni, il devint la propriété de Giuseppe Daniel, connu sous le nom de Danieli après la chute de la République. En 1822, il en fit l'hôtel que l'on sait, sous le nom d'abord d'Albergo Real, devenu ensuite Royal Danieli et enfin Danieli tout court. Furent ajoutés plus tard, de part et d'autre du palais initial, deux bâtiments qui communiquent avec l'ancien. Alors, un premier bâtiment fin 19e et le second sous l'ère mussolinienne. Voilà. Les trois bâtiments conservés sont les premiers à droite et plus on va vers la gauche. 1, 2, 3. L'hôtel Danieli est le plus proche hôtel du palais des Doges, sur la riva degli Schiavoni, le quai des Esclavons. Il offre une vue unique sur le bassin de Saint-Marc, San Giorgio Maggiore, la Dogana di Mare ou Santa Maria della Salute. Une vue admirablement décrite par George Sand dans ses Lettres d'un voyageur. Le soleil était descendu derrière les monts Vicentins. De grandes nuées violettes traversaient le ciel au-dessus de Venise. La tour de Saint-Marc, les coupoles de Sainte-Marie, Santa Maria della Salute, et cette pépinière de flèches et de minarets qui s'élève de tous les points de la ville se dessinaient en aiguilles noires sur le ton étincelant de l'horizon. Le ciel arrivait, par une admirable dégradation de nuances, du rouge cerise au bleu de smalt, et l'eau, calme et limpide comme une glace, recevait exactement le reflet de cette immense irisation. Au-dessous de la ville, elle avait l'air d'un grand miroir de cuivre rouge. Jamais je n'avais vu Venise si belle et si féerique. Cette noire silhouette, jetée entre le ciel et l'eau ardente, comme dans une mer de feu, était alors une de ces sublimes aberrations d'architecture que le poète de l'Apocalypse a dû voir flotter sur les grèves de Patmos quand il rêvait sa Jérusalem nouvelle et qu'il la comparait à une belle épousée de la veille. Peu à peu, les couleurs s'obscurcirent, les contours devinrent plus massifs, les profondeurs plus mystérieuses. Venise prit l'aspect d'une flotte immense, puis d'un bois de hauts cyprès où les canaux s'enfonçaient comme le grand chemin de sable argenté. Ce sont là les instants où j'aime à regarder au loin. Le séjour n'en est pas pour autant un long fleuve tranquille. George Sand est encore malade. Une affreuse dysenterie, l'accable, Musset en profite, court les bouges de Venise, fréquente les danseuses de la Fénice. Un matin, il rentre tout ensanglanté et bientôt commence une terrible crise. André Monroy écrit que cela tenait de la folie, de la fièvre cérébrale, de la typhoïde. Quoi que ce fût, c'était un spectacle effrayant. Confirmation nous en est donnée par la lettre que Sand envoie à Jules Boucquoirent le 4 février 1834. Jules Boucquoirent est précepteur des enfants et homme à tout faire de George Sand. Il sera le correspondant de Maurice, le fils aîné, pensionnaire au lycée Henri IV, avant de retourner à Nîmes, sa ville natale, où il sera rédacteur du courrier du Gard jusqu'à sa mort. Je n'ai pas trouvé d'image représentant Jules Boucquoirent, mais voici en tout cas le petit Maurice Sand, sans doute à l'époque. Il devait avoir à peu près cet âge-là. Alors en effet, Sand écrit « Je viens encore d'être malade. 5 jours d'une dysenterie affreuse. Mon compagnon de voyage est très malade aussi. Nous ne nous en vantons pas. Parce que nous avons à Paris une foule d'ennemis qui se réjouiraient en disant « Ils ont été en Italie pour s'amuser et ils ont la foire. Quel plaisir pour nous, ils sont malades !» Ensuite, Madame de Musset serait au désespoir si elle apprenait la maladie de son fils. Ainsi n'en soufflait mot. Il n'est pas dans un état inquiétant, mais il est fort triste de voir languir et souffroter une personne qu'on aime et qui est ordinairement si bonne et si gaie. J'ai donc le cœur aussi barbouillé que l'estomac. Par-dessus le marché, Monsieur Bulose fait le cassandre, et le gouverneur avec moi, ce qui ne m'amuse guère. Il mérite des coups de pied au cul, tandis que moi, je m'échine pour le satisfaire et travaille en grelottant de fièvre. C'est trop bête. C'est que le bougre tarde à lui envoyer les fonds qu'elle lui réclame. Aussi avoue-t-elle dans la même lettre, « Je quitte le Danieli » et projette de s'installer tout près de là, dans une maison de la Calle delle Race. Elle jouxte l'hôtel. Mais cela ne pourra se faire tout de suite. N'écrit-elle pas le lendemain justement à Bulose ? Il y a environ 5 jours, nous sommes tombés malades à peu près ensemble. Moi, d'une dysenterie qui m'a fait horriblement souffrir, et je ne suis pas rétabli, mais qui m'a laissé au moins la force de le soigner, lui, d'une fièvre nerveuse et inflammatoire, qui a fait des progrès rapides au point qu'aujourd'hui, il est très mal, et le médecin déclare qu'il ne sait qu'en penser. Il faudra attendre au 12e ou 13e jour pour savoir s'il n'y a point de danger pour sa vie. Et que sera ce 12e ou 13e jour ? Le dernier, peut-être. Je suis au désespoir, accablé de fatigue, souffrant horriblement et attendant quel avenir. Nous vivons dans une auberge très chère. Nous allions la quitter. Alfred n'est pas transportable et ne le sera peut-être pas d'un mois. Les 1000 francs que vous devez m'envoyer n'y suffiront pas. Et je ne sais comment nous ferons. Le séjour idyllique tourne court. Il n'est plus question que d'argent, de maladie et en conséquence de médecin. Le médecin, c'est lui, Pietro Pagello. Dans ses souvenirs, intitulés « Da Parigi à Genova », Pagello narre sa première vision de sang. En passant sous les fenêtres de l'albergo Danieli, je vis à un balcon du premier étage une jeune femme assise, d'une physionomie mélancolique, avec les cheveux très noirs et 2 yeux d'une expression décidée et virile. Son accoutrement avait un je ne sais quoi de singulier. Ses cheveux étaient enveloppés d'un foulard écarlate en manière de petit turban. Elle portait au cou une cravate, gentiment attachée sur un col blanc comme neige. Et avec la désinvolture d'un soldat, elle fumait un paquitos en causant avec un jeune homme blond assis à ses côtés. Et le jeune homme blond, Musset bien sûr, la représentait à peu près dans l'accoutrement que Pagello vient de décrire. C'est plus que de la fascination, c'est un coup de foudre. Et voilà qu'il reçoit le 5 février suivant une lettre de George Sand elle-même. « Je vous prie de venir voir le plus tôt que vous pourrez avec un bon médecin pour consulter ensemble sur l'état du signor français de l'auberge royale. Mais je veux vous dire auparavant que je crains pour sa raison plus que pour sa vie. Depuis qu'il est malade, il a la tête excessivement faible et raisonne à peu près comme un enfant. C'est un poète très admiré en France. Mais l'exaltation du travail cérébral, le vin, les fêtes, les femmes, le jeu, l'ont beaucoup fatigué et ont excité ses nerfs. Pour la moindre chose, il est agité comme si elle était très grave. Une fois, il y a 3 mois de cela, il a été comme fou, toute une nuit. » C'est une allusion sans doute à la scène de Franchard que j'ai évoquée tout à l'heure. 3 jours après, elle écrit au bon Jules Boucoiran. « Il est réellement en danger. » Et les médecins me disent « Poco a sperare, poco a disperare ». La nuit dernière a été horrible. Il a failli m'étrangler. Heureusement, j'ai trouvé enfin un jeune médecin excellent qui ne le quitte ni jour ni nuit et qui lui administre des remèdes d'un très bon effet. Le même jour, À Sosthène de La Rochefoucauld, directeur des Beaux-Arts sous Charles X, et sans doute son amoureux platonique, elle dit tous ses malheurs et termine ainsi « Si vous voulez bien me prêter cette petite somme, je serai à même de vous la rembourser dans 3 mois et vous me rendrez un grand service. » Toujours les mêmes problèmes. Et ce qui devait arriver, arriva. Bientôt, Sand s'adresse à Pagello en ces termes. « Je sais aimer et souffrir. Et toi, comment aimes-tu ? L'ardeur de tes regards, l'étreinte violente de tes bras, l'audace de tes désirs me tentent et me font peur. Je ne sais ni combattre la passion, ni la partager. Je ne sais pas si tu m'aimes vraiment. Je ne le saurai jamais. » Fin février, après qu'elle ait écrit à Bulow, « Mon ami, Alfred est sauvé. Il n'a pas eu de nouvelle crise et nous touchons au 14e jour sans que le mieux se soit interrompu. Ne me laissez pas sans argent. À peine sera-t-il guéri qu'il voudra partir car il a pris Venise en horreur et s'imagine qu'il mourra s'il y reste. » Elle envoie à Pagello une lettre qui ne laisse plus aucun doute. Aurons-nous assez de prudence et assez de bonheur, toi et moi, pour lui cacher notre secret pendant 1 mois ? Les amants n'ont pas de patience et ne savent pas se cacher. Son cœur n'est pas mauvais et sa fibre est très sensible. C'est d'Alfred dont elle parle. Mais son âme n'a ni force, ni véritable noblesse. Réfléchis à mon caractère et souviens-toi de ce que tu as dit une fois. Ella cessa de amare questo uomo per amarmi, ella potrà cessar de amarmi per amar un altro. Elle a cessé d'aimer un homme pour moi, elle peut cesser de m'aimer pour un autre. Je ne crois pas que j'en puisse aimer un autre à présent. Si je cessais de t'aimer, c'est la première fois que j'aime sans souffrir au bout de 3 jours. Reste, mon Pagello, avec ses gros baisers, son air simple, son sourire de jeune fille, ses caresses, son grand gilet, son grand regard doux. Oh, quand serais-je ici seul au monde avec toi ? Et de rajouter, tu es jeune et fort, ton âme est toute neuve, toute belle, toute vigoureuse. Eh bien, quand même tu ne serais qu'un brave et noble fou, tu voudrais mieux que tous ceux qui nient. Conduis-moi où tu voudras. Je me fie à ta vertu. Aimons, souffrons, mourons ensemble. Aie du courage, aie confiance en moi comme j'ai confiance en toi. Je t'aime. Tout autre est le ton utilisé dans le courrier du 5 mars qu'elle envoie à son toujours mari, Casimir. J'ai été sérieusement malade. La fièvre qui m'avait prise à Gênes et ensuite à Florence m'a reprise à mon arrivée ici. Et je suis resté 15 jours au lit avec des douleurs insupportables à la tête. Enfin, la saignée et la quinine m'ont rétabli. J'ai encore traîné 15 jours avant d'être tout à fait bien. Maintenant, je suis très forte et je travaille énormément. Je me promène aussi beaucoup et je vais de temps en temps au spectacle qui est fort bon. Nous avons Madame Pasta et Donzelli, chanteurs à la Fenice. En voici la façade. Comme je me plais beaucoup ici, que Venise est la plus belle ville de l'univers, et que la vie est charmante à bon marché, j'ai renoncé à pousser plus loin mon voyage, et j'y resterai encore ce mois-ci. Le mois prochain, je retournerai à Paris par Genève, et après avoir vu et embrassé Maurice, j'irai passer l'été à Nantes. Quel beau et pieux mensonge! Plus dure est la réalité. Ce que nous confirme la lettre envoyée à Pagello à la mi-mars. Il a été très mal cette nuit, le pauvre enfant. Il croyait voir des fantômes autour de son lit et criait toujours « Je suis fou, je deviens fou !» Je crains beaucoup pour sa raison. Il faut savoir du gondolier s'il n'a pas bu du vin de Chypre dans la gondole hier, s'il n'était qu'ivre. Car dès qu'il le peut, il s'échappe. Sous prétexte de promenade en gondole. S'il n'avait encore que des doutes sur les liens qui pouvaient unir Sand et Pagello, une scène dont il est témoin est sans équivoque. Il la racontera plus tard à son frère Paul, en 1852, en ces termes. En face de moi, je voyais une femme assise sur les genoux d'un homme. Elle avait la tête renversée en arrière. Je n'avais pas la force de soulever une paupière. Le rideau du lit me dérobait aussi une partie du groupe. Mais cette tête que je cherchais vint d'elle-même se poser dans mon rayon visuel. Je vis les deux personnes s'embrasser. Je poussai un léger cri. J'essayai alors de tourner ma tête sur l'oreiller et elle tourna. Ce succès me rendit si joyeux que j'oubliai mon indignation et mon horreur et que j'aurais voulu pouvoir appeler mes gardiens pour leur crier « Mes amis, je suis vivant !» Le 13 mars, Musset et Sand quittent le Danieli. Le registre de l'hôtel en fait foi. Et c'est le jour même, ou le lendemain, qu'a lieu la scène célèbre qui, après des aveux partiels faits par Pagello à Musset, voit le poète joindre les mains du docteur et de Georges Sand en bénissant leur union avec des mots qu'elle lui rappellera dans une lettre ultérieure dont voici l'essentiel. Ah, cette nuit d'enthousiasme, où malgré nous, tu joignis nos mains en nous disant « Vous vous aimez et vous m'aimez pourtant. Vous m'avez sauvé, âme et corps. Tout cela était donc un roman ? Oui, rien qu'un rêve et moi seul, imbécile enfant que je suis, j'y marchais de confiance et de bonne foi. Et tu veux qu'après le réveil, quand je vois que l'un me désire et que l'autre m'abandonne en m'outrageant, je crois encore à l'amour sublime ? Non, hélas, il n'y a rien de tel en ce monde. Et ceux qui se moquent de tout ont raison. » Cela ne l'empêche pas, quelques jours plus tard, de crier « Il n'y a pas d'autre terme » à Pagello. « mon Pierre, tu es un homme, toi. On peut t'aimer et t'estimer. Que tu es bon, mon ami. Au milieu de mes rêves, je te vois passer. Ah, si je pouvais crier ton nom 20 fois pendant la nuit. Adieu, adieu, je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Le 22 mars, elle l'écrit à l'ami Alfred Tatté, ami d'Alfred de Musset, puis de Sand ensuite, qui séjourna lui aussi à Venise. « En attendant, nous partons pour Paris dans 8 ou 10 jours. » Mais le 27, coup de théâtre, lettre de Musset à Sand. « Adieu, mon enfant. Je pense que tu resteras ici et que tu m'enverras l'argent par Antonio. » Antonio est un perruquier qui accompagnera Musset jusqu'à Paris. « Quelle que soit ta haine ou ton indifférence pour moi, si le baiser d'adieu que je t'ai donné aujourd'hui est le dernier de ma vie, il faut que tu saches qu'au premier pas que j'ai fait dehors avec la pensée que je t'avais perdu pour toujours, j'ai senti que j'avais mérité de te perdre. » Et que rien n'est trop dur pour moi. Si t'importe peu de savoir si ton souvenir me reste ou non, il m'importe à moi, aujourd'hui, que ton spectre s'efface déjà et s'éloigne devant moi, de te dire que rien d'impur ne restera dans le sillon de ma vie où tu as passé, et que celui qui n'a pas su t'honorer quand il te possédait peut encore y voir clair à travers ses larmes et t'honorer dans son cœur, où ton image ne mourra jamais. Adieu, mon enfant. » « Non, ne pars pas comme ça, » répond-elle. « Tu m'as dit de partir, et je suis parti, » réplique Musset. « Tu m'as dit de vivre, et je vis, » ajoute-t-il. Par Padoue, Milan, Arona, sur les rives du lac Majeur, Genève et Bellegarde, Musset gagne Paris, son passeport l'atteste. C'est la séparation que ce sonnet du poète confirme. Il faudra bien t'y faire à cette solitude, pauvre cœur insensé, tout près de se rouvrir, qui sait si mal aimer et sait si bien souffrir. Il faudra bien t'y faire, et sois sûr que l'étude, la veille et le travail ne pourront te guérir. Tu vas, pendant longtemps, faire un métier bien rude. Toi, pauvre enfant gâté, qui n'a pas l'habitude d'attendre vainement et sans rien voir venir. Et pourtant, ô mon cœur, quand tu l'auras perdu, si tu vas quelque part attendre sa venue, sur la plage déserte, enfin tu l'attendras. Car c'est toi qu'elle fuit de contrée en contrée, cherchant sur cette terre une tombe ignorée, dans quelque triste lieu qu'on ne te dira pas. Solitude toute relative, puisqu'à son tour Sand quitte Venise, mais, et vous l'avez deviné, avec le bon Pagello. Sa lettre de Trévise du 30 mars laisse perplexe. En voici la fin. Adieu, adieu, mon ange, que Dieu te protège, te conduise et te ramène un jour ici, si j'y suis. Dans tous les cas, certes, je te verrai aux vacances. Avec quel bonheur, alors, comme nous nous aimerons. N'est-ce pas, mon petit frère, mon joli enfant? Ah, qui te soignera? Et qui soignerai-je? Qui aura besoin de moi? Et de qui voudrais-je prendre soin désormais? Comment me passerai-je du bien et du mal que tu me faisais? Puisses-tu oublier les souffrances que je t'ai causées et ne te rappeler que les beaux jours? Le dernier, surtout, qui me laissera un baume dans le cœur et en soulagera la blessure. Adieu, mon petit oiseau. Aime toujours ton pauvre vieux. De Genève, le 4 avril 1834, Musset lui répond. Je t'aime encore d'amour. Les larmes coulent abondamment sur mes mains tandis que je t'écris, pauvre Georges. Pauvre cher enfant, tu t'étais trompé. Tu t'es cru ma maîtresse. Tu n'étais que ma mère. Le ciel nous avait fait l'un pour l'autre. Nos intelligences dans leur sphère élevée se sont reconnues comme deux oiseaux des montagnes. Elles ont volé l'une vers l'autre. Mais l'étreinte a été trop forte. C'est un inceste que nous commettions. L'escapade à Trévise terminée, Sand rentre à Venise et emménage à San Fantine, derrière la Fenice, avec Pagello, bien sûr. « Tu as raison, écrit-elle à Musset. Notre embrassement était un inceste. Mais nous ne le savions pas. Nous nous jetions innocemment et sincèrement dans le sein l'un de l'autre. Eh bien, avons-nous un seul souvenir de ces étreintes qui ne soient chastes et saints? Tu m'as reproché, dans un jour de fièvre et de délire, de n'avoir jamais su te donner les plaisirs de l'amour. J'en ai pleuré alors. Et maintenant, je suis bien aise qu'il y ait quelque chose de vrai dans ce reproche. Au moins, tu ne te souviendras pas de moi dans les bras des autres femmes. » Elle ajoute plus loin. Pagello est un ange de vertu et mériterait d'être heureux. Je passe avec lui les plus doux moments de ma journée à parler de toi. Il est si sensible et si bon, cet homme. Pour parler vulgairement, quel culot. Adieu, adieu, mon cher petit enfant. Écris-moi bien souvent, je t'en supplie. Oh, que je voudrais te savoir arriver à Paris, et bien portant. Souviens-toi que tu m'as promis de te soigner. Adieu, mon Alfred. Aime ton Georges. Inconscience, cruauté, je ne sais que penser. Le 10 avril 1834, Musset est à Paris. Son frère, Paul, nous dit que lorsqu'on sut à Paris qu'Alfred de Musset était revenu sans le compagnon de voyage avec lequel il était parti, on fit sur ce sujet beaucoup de conjectures. On inventa des fables qui, assurément, n'approchaient pas de la vérité. En juillet, Sand se décide à rentrer en France avec Pagello, qui n'est pas dupe. Ne dit-il pas, dans un courrier envoyé à son père, « Je suis au dernier stade de ma folie. Demain, je pars pour Paris où je quitterai la Sand. » Musset publie « On ne badine pas avec l'amour » et veut revoir la Sand en question. Mal lui en prit. Le choc lui fut insupportable, d'autant qu'elle lui dit être heureux avec Pagello. Il part pour Baden le 25 août, elle part pour Nohant le 29. Et le bon docteur, lui, revint à Venise, s'y maria une fois, deux fois, eut 8 enfants de ces deux femmes et mourut à 91 ans. Ce que Louise Collet, témoin on ne peut plus fiable, confirme dans son ouvrage L'Italie des Italiens, paru en 1862. Voici Louise Collet, qui est romancière aussi, moins connue évidemment, mais qui passa dans de nombreux bras. Flaubert par exemple, et d'abord Musset. Alors non seulement elle est allée au Danielier, comme je viens de vous le dire, elle a aussi été un temps la maîtresse de Musset. Voici ce qu'elle dit. Vers midi, pendant qu'on faisait ma chambre, j'allais causer avec la fille du maître de l'hôtel, une douce et cordiale personne qui aimait à parler avec moi de la France. Je trouvais près d'elle son père, le vieux et intelligent Danieli. Poursuivi par la voix de mon songe, je lui dis tout à coup « Vous qui connaissez si bien Venise, vous devez savoir où est situé le palais Nanni. » « Le palais Nanni, répliqua-t-il étonné, mais madame, vous y êtes ?»« Et non, votre palais se nomme le palais Bernardo. »« Bernardo Nanni, répartit l'hôtelier, il appartenait il y a 25 ans au comte Nanni Mocenigo qui lui avait donné son nom. Et j'en fis l'acquisition après la mort du comte, et il reprit alors sa vieille dénomination de palais Bernardo. » En ce cas, repris-je avec vivacité, « Vous avez connu Alfred de Musset, il a logé ici. »« Alfred de Musset ?» répéta M. Danieli, comme cherchant à se ressouvenir. « Oui, répartis-je, un poète français. »« Ce qu'il y a de certain, poursuivit M. Danieli, c'est que j'ai eu chez moi un de vos auteurs célèbres, M. de Balzac. Il m'a même donné un de ses romans. »« Mais l'autre, son nom ne me revient pas. » « Rappelez-vous, monsieur Danieli, c'était un jeune homme blond. »« Oh oui, s'écria l'hôtelier, un jeune homme blond qui a été malade chez moi, bien malade. »« Mais veuillez bien m'attendre un moment, je vais vous répondre avec certitude. » Monsieur Danieli sortit, laissant en suspens ma curiosité. Il reparut, presque aussitôt, tenant dans ses mains un énorme registre. « Cherchez dans l'année 1834, lui dis-je, ou à la fin de celle de 1833. » Monsieur Danieli tourna quelques feuilles. « M'y voilà, dit-il. » Et il me désigna une signature qui me fit tressaillir. Je lus « Alfred de Musset, de Paris, 7 décembre 1833. »« Oh, je me souviens bien maintenant, » dit l'hôtelier en relisant à son tour ce nom et un autre qui le précédait. « Ce joli jeune homme blond fut gravement malade ici. C'est le vieux docteur Santini qui le soigna. »« Un vieux docteur, dites-vous ? » Toujours accompagné d'un aide, d'un jeune élève qui faisait les saignées et donnait les purgatifs, comme c'était alors l'usage à Venise, répliqua M. Danieli. Depuis, l'élève de Santini, ce bon Pietro Pagello, est devenu docteur à son tour, je puis vous en parler sciemment, car je suis le parrain de sa fille aînée qui s'est mariée cette année à Trévise. Ce diable de Pagello a bien eu 8 enfants, ma foi, de ses 2 femmes. Il exerce à Bellune et on vient le consulter de tous les environs et il serait fort heureux s'il n'était tombé dans une surdité complète. Il n'entend même pas avec un cornet. Il faut qu'on lui écrive ce qu'on lui demande et il vous réplique lui-même de cette manière. Il n'a pas toujours été un médecin si renommé, ce cher Pagello. Il avait fait un voyage à Paris d'où il revint très content avec un peu d'argent et une boîte d'instruments pour broyer la pierre, instrument de lithotricie. Il fit d'abord quelques opérations désastreuses qui le discréditèrent à Venise, mais il a pris sa revanche à Bellune et dans tout le Tyrol italien. La biographie de ce pauvre docteur devenu sourd m'intéressait médiocrement. J'écoutais pourtant sans interrompre M. Danieli qui paraissait charmé de me parler de son ami. Quand il eut fini, je lui demandai simplement « Était-il bien beau ce Pietro Pagello ?»« Un gros garçon, un peu court, blond, ayant l'air d'un Prussien. »« Revenons à l'autre jeune homme blond, lui dis-je. L'appartement où il est, où il demeura, existe-t-il encore dans votre hôtel ?»« S'il existe, il est tout près de votre chambre. » Je ne puis empêcher de frissonner. Il porte le numéro 13, continua M. Danieli. Il est situé au fond de la grande galerie à gauche. Je me levai aussitôt. Conduisez-moi, m'écriai-je, je désire voir de suite cet appartement. Oh, c'est facile. Il est vide comme tous les autres, hélas. Monsieur Danieli se fit apporter une clé et marcha devant moi. Nous montâmes l'escalier de marbre orné de bustes, puis franchîmes la grande salle d'honneur du palais Bernardo Nadi, devenue une galerie de passage. Nous parvînmes au fond de la galerie, devant le petit escalier en bois qui conduisait dans la chambre, pratiqué, comme je l'ai dit, dans des pièces à plafond élevées dont on avait partagé la hauteur pour en faire deux entresols. Nous tournâmes à angle gauche, où est une rampe à jour qui encadre et couronne le vestibule. Nous étions devant la porte du numéro 13. Monsieur Danieli ouvrit. Nous fîmes trois pas dans un petit passage, franchîmes une seconde porte et nous nous trouvâmes dans la chambre où Alfred de Musset avait failli mourir à Venise. Elle communique avec une autre chambre à peu près d'égale grandeur qui est suivie d'un grand salon dont les deux larges fenêtres s'ouvrent sur le quai des Esclavons. L'îlot de San Giorgio est en face avec son église et son campanile qui semble flotter sur la lagune. À droite s'élève la Dogana de Mar et la Salute. À gauche, au loin, au retour du quai des Esclavons, le jardin public, groupé sur les flots comme un bouquet gigantesque de fleurs aquatiques. Je m'accoude un moment à l'une des fenêtres, puis considérant le salon, je m'enquire des changements qui ont été faits à sa disposition et à son ameublement. Le salon était plus grand au temps du jeune homme blond, me dit M. Danieli, qui désigna toujours de la sorte l'auteur de Rolla. Nous l'avons coupé en partie pour faire un couloir de dégagement. Il était à cette époque tendu en soie bleu foncé, comme lorsque M. de Balzac l'occupa deux ans plus tard. Car maintenant, je me souviens des dates exactes, grâce à mon registre. M. de Balzac avait aussi les deux chambres que vous venez de voir, poursuivit-il. Rien n'a été changé à leur disposition. Les papiers seuls et les rideaux ont été renouvelés. Nous étions entrés dans ces deux chambres mémorables. Je m'arrêtais dans celle qu'avait habitée Alfred de Musset. Je regardais tour à tour avec attendrissement le lit où il avait tant souffert et cette glace penchée où son pâle et noble visage s'était reflété. Monsieur Danieli, surpris de mon examen et de mon émotion, me dit « Monsieur de Balzac et ce jeune homme blond étaient donc des personnages bien importants en France ?»« Assez importants, » répliquai-je en souriant de son épithète, « pour que je vous conseille de mettre leur portrait à la place des enluminures qui décorent le grand salon. » et d'inscrire sur le seuil de cet appartement le nom de ses hôtes glorieux. « Vous croyez que cela plaira aux voyageurs et les attirera ?» répliqua l'hôtelier. « Oui, » répondis-je, « bien des femmes viendront ici en pèlerinage. En attendant, voulez-vous m'y laisser quelques heures tandis que la neige tombe et que je ne puis sortir ?»« Bien volontiers, » répliqua M. Danieli. Et il ajouta en se retirant, « C'est une bonne idée. Je vais écrire à mon correspondant de Paris qu'il m'envoie ces deux portraits. » Quand je fus seul, je me pris à pleurer, en proie à cette angoisse de l'impuissance humaine qui évoque sans cesse, mais ne peut faire revivre ce qui n'est plus. Pourtant, Musset s'y essaya avec brio, en contant l'histoire de Pippo, le fils du Titien Tizianello, et de Béatrice. Voici une illustration de cet ouvrage. Faite par un certain Alexandre Bida. Dans cet ouvrage, il y transfigure sa pénible désillusion, l'abandon du grand amour romantique. Non seulement ses héros s'aiment d'une passion exclusive et sans ombre, mais tout leur sourit. Hasard, talent, richesse. Rien à voir avec son expérience dans cette Venise qui ne lui laissa que des mauvais souvenirs et qu'il avait cependant si bellement décrite dans ses contes d'Espagne et d'Italie, paru bien avant en 1829. Dans Venise la Rouge, pas un bateau qui bouge, pas un pêcheur dans l'eau, pas un falot. Seul, assis à la grève, le grand lion soulève sur l'horizon serein son pied d'airain. Autour de lui, par groupes, navires et chaloupes, pareils à des hérons couchés en rond, dorment sur l'eau qui fume et croisent dans la brume en léger tourbillon leur pavillon. La lune qui s'efface couvre son front qui passe d'un nuage étoilé demi-voilé. Ainsi, la dame abaisse de sainte croix, rabaisse sa cape aux larges plis sur son surplis. Et les palais antiques, et les graves portiques, et les blancs escaliers des chevaliers, et les ponts, et les rues, et les mornes statues, et le golfe mouvant qui tremble au vent, tout se tait. Fort les gardes aux longues hallebardes qui veillent aux créneaux des arsenaux. Ah, maintenant, plus d'une attend, au clair de lune, quelque jeune muguet l'oreille au guet. Pour le bal qu'on prépare, plus d'une qui se pare, met devant son miroir le masque noir. Sur sa couche embaumée, la Vanina pâmée presse encore son amant en s'endormant. Et Narcissa, la folle, au fond de sa gondole, s'oublie en un festin jusqu'au matin. Et qui, dans l'Italie, n'a son grain de folie? Qui ne garde aux amours ses plus beaux jours? Laissons la vieille horloge au palais du vieux doge lui compter de ses nuits les longs enduits. Comptons plutôt, ma belle, sur ta bouche rebelle, tant de baisers donnés ou pardonnés. Comptons plutôt tes charmes, comptons les douces larmes qu'à nos yeux a coûté la volupté. Volupté que Musset retrouve sans doute dans un billet Alfred Tatté en date du 14 janvier 1835. Sand avoue, Alfred est redevenu mon amant. Ça n'est qu'un feu de paille. Et à la mi-février, c'en est fini du roman de Venise. Et les derniers échanges épistolaires tiennent plutôt du règlement de compte. Je vais vous lire deux passages qui le prouvent. Alors d'abord, une première lettre de Musset. « Mais je ne mourrai pas, moi, sans avoir fait mon livre sur moi et sur toi. Sur toi surtout. Non, ma belle, ma sainte fiancée, tu ne te coucheras pas dans cette froide terre sans qu'elle sache qui est la portée. La postérité répétera nos noms comme ceux de ces amants immortels qui n'en ont plus qu'un à eux deux, comme Roméo et Juliette, comme Héloïse et Abélard. On ne parlera jamais de l'un sans parler de l'autre. » Ce à quoi répond George Sand. Je ne puis songer sans amertume que les élans les plus douloureux de mon cœur, les paroles les plus ardentes de mon cerveau, en un mot, les pages les plus animées de ma vie, resteraient dans les mains d'une personne qui me hait pour être livrée à la risée publique. Non, Alfred, il ne faut pas, et pour toi et pour moi, qu'il en soit jamais ainsi. Ces pages écrites dans le moment de ta vie où tu as été le plus aimé, et par l'être qui t'a le plus aimé, doivent n'être pas oubliés dans un carton entre le soulier de celle-ci et le gant de celle-là. Je ne puis pas laisser au hasard des événements de ce monde l'honneur et la vie de tout ce que j'aime en ce monde. Voilà le sentiment qui me force à te redemander ces lettres, ces lambeaux de ma poitrine qui palpitent encore, peut-être. Et je laisserai le dernier mot à Lélia, tout au moins aux premières phrases du roman de Sand. Qui es-tu et pourquoi ton amour fait-il tant de mal? Je vous remercie.
Eh bien,
vous avez un dernier portrait de Musset qui est très connu. Hein? Et un autre portrait de Sand. Je vous ai fait grâce des photos de Nadar, la représentant à la fin de sa vie. C'est moins beau.
Non, oui, mais c'était pas le sujet.
Ça n'était pas le sujet.
Ils étaient terribles dessus. Très bon. Merci beaucoup pour. Est-ce que vous avez des questions à poser?
Alors, si certains ont des questions, je vais dire le mot de Gonzague Saint-Brie, qui le prononça lors de circonstances que j'ignore totalement, mais qui répondit « Adressez-vous à cette dame, elle en sait plus que moi. » Et cette dame en question, c'était Marie-Hélène, qui a traité déjà de ce sujet et qui doit certainement en savoir, sinon autant, je dirais même beaucoup plus que moi.
Alors sur la serviette.
Mais enfin, vous pouvez toujours poser vos questions.
Donc, moi, je voudrais vous demander une information qui touche à la période où il se trouvait à Venise. Donc, c'était sur le régime autrichien, je pense.
Je pense aussi, 1833, oui. Oui.
Mais est-ce que ça ne coïncide pas avec la période où se trouvait Thomas Mann? Vous vous souvenez de
la
Venise?
Oui.
Je crois ne pas me tromper.
C'est possible.
Enfin, je chercherai les dates hein, pour en avoir.
Là, je ne vous contredirai pas.
Si quelqu'un ici a la réponse, je vais y aller. Mais essayez, en tout cas, de rapprocher la période. Parce que, en fond, les deux amants n'ont pas Dieu pour tout ce qui se passe ailleurs.
Ah non, c'est un amour, enfin un amour, si on peut appeler ça un amour exclusif.
On a l'impression qu'on se demande même si c'était la peine d'aller à Venise pour ça.
Ah, complètement.
Ah, ben ça, c'est
complètement.
Voilà.
Donc ça n'est pas possible. Non. Merci. Je vous remercie.
C'est vraiment des textes intéressants. Enfin, j'ai beaucoup apprécié la lecture que Daniel en a faite parce qu'il a lu beaucoup de lettres et notamment le passage assez long sur le Danieli quand la Louise Collet, l'amie de Flaubert, vient toute bouleversée en parler. C'est curieux parce que. Cette lettre est étrange parce qu'on insiste tant sur les détails et pas sur les sentiments. C'est à peine si on sent qu'elle vient par amour de Lucet.
Peut-être, oui.
Mais c'est ça qui est aussi intéressant. Voilà, je ne la connaissais pas bien.
C'est une sorte de pèlerinage.
Oui, une sorte de pèlerinage.
Mais je n'ose peut-être pas en parler.
D'une femme célèbre. Ouais.
Alors, je demande à d'autres qui prennent le relais, mais il y a de quoi dire là-dessus. Ouais. Il me semble quand même que ce qui vient de vous être conté, et de façon générale, toutes les mémoires de Français qui étaient en Italie à l'époque, je dois dire que notre amour-propre en prend pour son compte. Parce que à Venise, on connaît très peu, il faut le dire, d'ailleurs, on le voit bien avec l'attitude du patron et de Lieli, on connaît très peu l'aventure de Georges Sand et de Musset.
Ben, il faut savoir qu'à l'époque, les Français... Et puis les Français n'étaient pas très bien en cours. Hein. Bonaparte a signé la fin de la République, donc notre réputation est très très mauvaise.
Hein.
C'est tout frais, hein. 1833, c'est au début du siècle que ça s'est passé.
Ils n'étaient pas connus, ils étaient connus dans le cercle parisien.
Ben, ils sont tout jeunes, personne ne les connaît.
Voilà, surtout Michel. C'est après les
lettres du voyageur. C'est un gamin, Michel. Il a 23 ans. Hein.
23 ans. Hein. 6 ans.
Mais en souvenir, on pourrait croire que la chambre où se trouvait Musset, et je ne pense pas, je serais surpris que la chambre de Musset et de Georges Sand soit maintenant plus repérable qu'elle l'était au temps de.
Ça, je l'ignore, mais c'est qu'il en est passé du monde au Danieli. Hein. J'ai noté ça quelque part. Balzac, Dickens, Tourguenieff, Zola, Proust, Barrès, Alan Noailles, Truman Capote, D'Annunzio, Larbeau. Lotti, Maître d'Ormesson, Wagner, Debussy, Cocteau, tous ces grands noms sont passés par le Danieli. Hein. Pas forcément dans la chambre 13, mais.
J'allais ajouter
la liste des célébrités est incomparable.
Oui, Il n'y a pas que ces célébrités là qui sont pas la bienvenue. Mais Staline aussi.
Et j'ajouterais dans la suite royale à 12 000 euros la nuit, non?
Non, mais dans une partie de l'hôtel où on vient d'expliquer Daniel, où les étages étaient partagés en deux. Donc on avait droit soit au bas de la grande fenêtre ou bien dans le haut. Voilà. On est allé à un moment où il y avait écrit dans le dernier lit qu'il faisait des prix intéressants. C'était le mois de novembre. Alors, on ne pouvait pas avoir grand monde. Nous aussi, les Stalens sont passés par le dernier lit.
Voilà.
Est-ce qu'il y a
les chambres?
Est-ce qu'il y a un tableau de Michel?
Les chambres les moins chères donnent sur la calle de la Race que j'ai signalé tout à l'heure. À l'heure actuelle, c'est 365 euros la nuit quand même. Hein, pour avoir vu sur une ruelle en fait de Venise.
Je me sens obligé de vous dire quand même dans quelles circonstances nous avons passé je ne sais pas combien, deux nuits, peut-être hier. C'est que nous faisions partie d'une tentative de plusieurs entreprises européennes de distribution de pratiquer les achats en commun. Et le propriétaire à l'époque de la chaîne La Standa ambitionnait de faire partie de ce groupe et il a donc reçu tous les membres de ce groupe. Dans ce groupe, il y avait nous et un autre couple français de la même société, mais il y avait également des Suisses et des Allemands, et des Suédois et des Danois, et l'Italien. Il a fait de son mieux pour nous donner une réception, je veux dire, fastueuse. Il a dépensé certainement beaucoup d'argent. Enfin, il voulait nous en mettre plein la vue.
Ça nous rassure parce que on a pu penser un temps que c'était la Corfi qui avait payé.
je pense que le budget de la Corfi n'aurait pas suffi.
À pied de chaussette, j'allais dire dans les couloirs, ne faisant pas trop de bruit, mais où nous avions fait à cette époque, puisque mon mari en parle, quelque chose de mieux, c'est qu'on a été, à ce moment-là, l'Italien nous a hébergés, enfin nous a reçus dans un palais du Grand Canal, juste derrière la Salute. Tu te souviens ? Et alors, parce qu'on a été sages, durant les réunions, il nous a dit, vous irez au dernier lit. Voilà, c'est tout.
Alors, si vous voulez, si vous voulez vous replonger dans les lettres que je vous ai lues, là, vous pouvez consulter le roman de Venise. Vous avez là tout l'échange des deux intéressés, même d'autres lettres. Là, c'est l'intégrale. Puis on retrouve la vie de Georges Sand, d'André Mauroy, celle de Martin Reid, et puis le Tizianello, le fils du Titien, dans un petit ouvrage.
Et les lettres des voyageurs.
Lettres des voyageurs.
Ouais. Ouais. Voilà des beaux cadeaux pour Noël. Voilà. Ouais. Ah oui, je fais très bien. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Très bien.